après j'ai mon chemin au Kassai oriental. J'ai refusé totalement cette question.
Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre ce premier numéro des paroles aux auditeurs de ce mois d'octobre. Environ 43% d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique en République démocratique du Congo. Le directeur du programme national de nutrition pour la lutte, Dr Jean Bameya, l'a affirmé mercredi 24 septembre dernier au cours d'un atelier des consultations sur l'élaboration d'un plan global de nutrition. Pour le Dr Jean Bameya, les ménages congolais mangent mal. Que proposez-vous pour faire face à cette situation? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission réalisée par Julie César. Jean-Claude Nsiala assure la mise en onde et Thierry Lamé, je vous la présente sous la supervision d'Oben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocafé.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Le souci est d'inverser la tendance car dans la moitié des ménages des Congolais, c'est depuis plusieurs temps, on mange mal en termes de quantité et de qualité. Ce sont les propos de Dr Jean Bameya, directeur du programme national de nutrition pour la lutte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à cette situation de la malnutrition chronique qui touche environ 43% d'enfants de moins de 5 ans en RDC? Vos contributions sont les bienvenues dans cette émission. Tout à l'heure, nous allons recevoir Madame Viviane Malemba, nutritionniste au programme national de nutrition pour la lutte. Mais plusieurs messages ont été déposés sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Plusieurs réactions, plusieurs propositions pour faire face à la situation de malnutrition. Angèle Télé-Missagui qui nous a écrit de la province orientale, précisément à Ouachia, dit ceci: pour lutter efficacement contre la malnutrition, il faut une grande sensibilisation des parents, car certains parents pensent que bien nourrir l'enfant, c'est remplir son ventre de n'importe quelle manière, avec n'importe quoi. L'enfant a besoin de ces trois types d'aliments pour sa croissance harmonieuse: aliments de construction, de protection et d'énergie. Symphorien Kabamba du Kananga au Kasaï occidental, lui, plaide pour l'amélioration des conditions de vie de la population, des salaires décents, équitables, qui puissent permettre aux fonctionnaires, à tout le monde alors, d'investir dans la nutrition. Jean-Pierre Bilingué, lui, pense que les ménages congolais mangent mal, mais est-ce qu'on peut être sûr des chiffres donnés? Diedo Matsuka, le gouvernement est responsable de tous les projets agricoles en RDC. Ils ne font qu'enrichir les gestionnaires de ces projets. Au lieu de cultiver seulement les soja et vulgariser du point de vue nutritionnel, ça coûte quoi? Je sais que l'élevage coûte beaucoup, mais pas au niveau gouvernemental. Récemment, en 2011, on a recruté 500 ingénieurs agronomes, médecins vétérinaires et techniciens agricoles. Pour quel motif, pour quelle raison? Où sont les résultats aujourd'hui? On a aussi une proposition et une réaction de Franck qui nous a écrit de Vienne. Il dit ceci: un pays immensement riche, mais dont les habitants sont parmi les plus pauvres au monde. Un pays avec une terre riche, autant des rivières et cours d'eau, mais dont plus de la moitié de la population a à peine avoir accès à l'eau potable. Un pays avec autant de forêts et savanes, mais dont les habitants ont à peine des repas équilibrés. Cette question de planification, d'organisation, question de revaloriser les secteurs de l'agriculture, des élevages et de la pêche. question de désenclaver certains ponts de la RDC pour les relier aux autres parties pour assurer un trafic assez rapide des produits vivriers. Aussi, certaines questions d'accès à l'énergie doivent être repensées. Il s'agit d'un problème de volonté politique. Tout cela peut aider à combattre la malnutrition. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Parole aux auditeurs. Edgar, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Nous allons vous accorder la parole. Je rappelle encore le numéro pour l'intervention en direct. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Edgar, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Et vous, à Kananga, qu'est-ce que vous proposez pour faire face à la malnutrition?
Bon, d'abord, je vais d'abord vous brosser la situation ici, Pierre. Selon plusieurs enquêtes menées depuis 2010 à ce jour dans la province du Kasaï occidental, il a été démontré que le taux de malnutrition globale est allé jusqu'au-delà de 15%, dépassant même le seuil de 2% qui est acceptable. Donc on va tout droit vers une catastrophe humanitaire, vu les chiffres que vous venez de donner à l'introduction. Si les réponses urgentes ne sont pas vraiment mises en place, la population pourra se retrouver avec une génération affaiblie. Quand on sait que la malnutrition est le frappe pour les enfants, les conséquences sont plus graves sur leur avenir et même l'avenir de tout un pays. Parce que les enfants malnutris acquisent des déficits sur le plan intellectuel et même sur le plan de la résistance du corps par rapport aux maladies. Et comme le ministère de la Santé vient de mettre en place le plan multisectoriel de nutrition, qui sera piloté d'ailleurs par le premier ministre pour lutter contre la malnutrition, il faut que vraiment la population puisse s'approprier ce plan, parce que c'est un plan multisectoriel. Et on doit s'attaquer aux causes, M. Pierrot. Nous connaissons tous, surtout chez les enfants. La malnutrition est souvent favorisée par les mamans elles-mêmes, Pierrot. Lorsqu'on leur dit qu'il faut nourrir exclusivement l'enfant au sein jusqu'à l'âge de 6 mois, il faut le faire, parce que c'est pas à partir de là que commence la malnutrition. Et cet allaitement doit être suivi aussi par un bon sevrage. Et deuxièmement, il faut vraiment vacciner les enfants, parce que ce sont les choses simples que nous négligeons et qui occasionnent des conséquences graves chez les enfants à l'âge adulte. Voilà un petit rôle, en bref, ce que je voulais proposer comme vraiment proposition ici à Kananga. Merci.
Merci beaucoup, Edgar. Vous proposez, au-delà de l'éducation des parents sur les responsabilités, les repas, la qualité, mais vous proposez aussi le respect du calendrier vaccinal pour accompagner l'amélioration de la nutrition. Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons dans ce studio Madame Viviane Malemba, nutritionniste, chef des services des réhabilitations nutritionnelles au PRONANUT, qui est le programme national de nutrition au ministère de la Santé. Madame Viviane Malemba, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et parler de la malnutrition. En fait, pour permettre aux auditeurs de comprendre avant d'aller plus loin, c'est quoi quand on parle de la malnutrition?
Oui, quand on parle de la malnutrition, donc c'est-à-dire il y a un apport alimentaire qui est vraiment insuffisant.
Mm-hmm.
Donc l'homme a besoin de manger ce qu'il faut pour construire son corps, et malheureusement ce qu'il mange du point de vue qualité, du point de vue quantité, c'est vraiment insuffisant.
Mm-hmm.
Donc c'est ce que nous parlons surtout chez nous ici dans le pays en voie de développement, de la sous-alimentation. Donc nous souffrons de la carence alimentaire.
Mmh.
Et aussi les causes aussi de la malnutrition, ce n'est pas seulement lié à la carence alimentaire,
mmh,
lié aussi aux maladies, aux infections. Donc on peut trouver dans un ménage là où il y a d'argent, ils ont tout à manger, il y a une bonne disposition alimentaire, l'accessibilité alimentaire, mais malheureusement on trouve des personnes ou des enfants dans ces ménages qui souffrent de la malnutrition. Ce n'est pas dit parce qu'il y a manque d'aliments, non, c'est parce que les enfants ou la personne a été touchée par une maladie. Et cette maladie-là, si ce n'est pas très bien soigné,
mm-hmm,
et comme conséquence, ça peut provoquer ou ça peut induire l'enfant ou l'adulte dans la malnutrition.
Mm-hmm.
Donc, en bref, je pouvais dire, comme cause de la malnutrition, il y a d'abord la malnutrition qui est immédiate. Donc, immédiate dans le sens que ça touche la personne.
Mm-hmm.
Soit il y a une insuffisance d'apport alimentaire, soit il y a une maladie quelconque qui peut toucher la personne. Il y a parmi les causes de la malnutrition aussi, il y a les causes que nous appelons sous sous-jacente. Les causes sous-jacentes sont liées au ménage. Mmh. S'il y a l'insécurité alimentaire, il n'y a pas disponibilité, il n'y a pas accessibilité, il n'y a pas une bonne utilisation des rapports alimentaires au niveau de l'organisme. Mmh. Ça crée aussi une malnutrition dans ces ménages-là. Mmh. Et il y a aussi l'inaccessibilité aux soins de santé. Si dans les ménages, et que les personnes, l'enfant, n'a pas accès aux soins de santé, et aussi dans ces ménages-là, il court un risque de souffrir de la malnutrition. Et aussi dans des ménages, si la femme est négligée, parce que la femme, comme on dit, c'est la maîtresse de la maison. Mm-hmm. La femme doit être instruite, la femme doit connaître qu'est-ce que la femme doit proposer, doit préparer pour son, pour ce ménage. Alors, si la femme n'est pas à mesure, elle n'est pas instruite, elle est négligée, marginalisée, aussi dans ce ménage-là, il court aussi un risque de souffrir dans la malnutrition. Il y a aussi l'eau et l'eau hygiène assainissement. Si l'eau n'est pas disponible ou n'est pas potable, aussi, s'il y a l'assainissement, donc l'environnement qui est malsain, aussi ce ménage-là court des risques de souffrir de la malnutrition. Ça, ce sont les causes sous-jacentes. Mais il y a aussi les causes fondamentales. Là, ça ne nécessite pas que l'individu puisse faire un effort. Ça ne nécessite pas que le ménage aussi puisse faire un effort. Mais non, ça c'est la base, même la racine. Si dans les budgets nationaux, par exemple, il n'y a pas une ligne budgétaire pour la nutrition, que la population doit bien se nourrir et que les causes aussi de la pauvreté, il y a les conditions socio-économiques qui font que la population, les agents ne sont pas en mesure de bien se subvenir à leurs besoins. Ce sont des causes fondamentales, c'est vraiment impossible.
Voilà. Et dans le rapport qui a été, disons, dans les lancements, l'élaboration du plan global de nutrition, le directeur de Pronalis a donné les chiffres, on parle d'environ 43% d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition chronique. Pourquoi ça touche plus ces enfants de moins de 5 ans?
Ok, comme nous vous disons, c'est un groupe prioritaire, le groupe le plus touché, vulnérable même. Nous parlons de le directeur a parlé de la malnutrition chronique. Oui, la malnutrition chronique touche d'environ ce qu'il a dit en termes de pourcentage, mais en termes bruts, c'est plus de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans en RDC qui souffrent de la malnutrition chronique. Chronique, c'est-à-dire dès la conception de la mère, de la grossesse de la mère est touchée, la mère souffre de la malnutrition, est affectée par la malnutrition. Ce qu'elle mange ne couvre pas les besoins de la mère pour sa santé d'abord et pour la santé de son foetus. Et le développement même de ce foetus-là sera vraiment affecté par la malnutrition et jusqu'à la naissance même. Donc c'est la malnutrition chronique qui est vraiment un problème très sérieux dans notre pays. Donc c'est 43% et actuellement avec les normes actuelles, la prévalence actuelle, on parle même de 48 de la malnutrition chronique. Donc nous avons un problème très sérieux. Maintenant, comment pallier à cela?
Et voilà, et ça va venir juste après. Alors on pourra savoir si les réponses sont les mêmes quand il s'agit de la malnutrition chronique et quand il s'agit, alors ça on va voir après, le temps que nous puissions aussi écouter les auditeurs, qu'est-ce qu'ils pensent, la situation dans leur milieu, y a-t-il des efforts qui se font chez vous pour faire face à ces problèmes de malnutrition? Appelez-nous au 081 890 63. Martin Dalla, vous êtes à Talili dans la province du Katanga. Bonjour Martin. Martin, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, désolé qu'on a perdu Martin de Kalemi. Nous retournons ici à Kinshasa, dans la capitale. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour vous, là où vous êtes, ici à Kinshasa, les témoignages que vous avez dans cette situation des malnutrition, quelles sont les pistes et les solutions que vous pouvez proposer pour faire face à cela?
Oui, j'aurais plusieurs pistes de solutions à proposer. Je vais d'abord faire l'état des lieux, parce que vous savez que je mène souvent beaucoup d'enquêtes dans le cadre des associations sanitaires. Vous savez que non, chez nous ici, il y a un problème. Le problème, c'est d'abord le problème des troubles alimentaires. Il y a un désordre organisé là-dessus. Par rapport au point de vue des enfants, de 0 à 5 ans, vous savez que non, il est conseillé, par exemple, à nos mamans, d'allaiter les enfants jusqu'à l'âge, jusqu'au sixième mois. Mais vous voyez, passer dans nos ménages, vous allez constater ce qui se passe sur ce plan-là d'abord. Les enfants sont nourris, donc après un mois, on commence à nourrir, à donner à l'enfant d'autres aliments qui, à mon avis, ne sont pas appropriés pour la santé de l'enfant. Et vous n'ignorez pas aussi que sur le plan des aliments, ici, on a l'habitude de ne manger qu'un seul un tel plat, si je peux le dire ainsi. Donc vous, continuellement, vous mangez des maniocs, et on n'a pas l'habitude d'équilibrer, de varier les aliments. Ça, c'est un problème, à mon avis, de l'éducation, bien qu'il n'y a pas vraiment l'abondance de nourriture, parce que je vais en parler, pour vraiment qu'on fournisse, qu'on donne à cette population la nourriture en abondance. Mais la population n'a pas cette éducation-là, même les pays qu'elle pouvait trouver de pouvoir varier les aliments. Et nos enfants, vous voyez que dans la plupart des cas, naissent auprès des parents qui n'ont pas une bonne éducation. Vous voyez qu'ils sont victimes de malnutrition par rapport à ces désordres-là d'abord. Et puis, il y a aussi, comme je disais, nous ne produisons pas en abondance. Là. Nous ne produisons pas en abondance. Surtout les légumes, les fruits, les œufs, et la viande, on n'en produit pas, les poissons. Ça, j'avais même un projet, j'avais même conçu un projet là-dessus. Je suis allé déposer, si je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'était mal rédigé ou quoi, mais l'idée que j'avais par rapport à ce projet, je suis allé déposer à l'UNICEF, à la Fondation Mosée, ainsi que à l'EPAO, c'était pour, en quelque sorte, accompagner les quelques familles maraîchères qui existent déjà dans l'élevage, disons, l'agriculture familiale, l'élevage, ainsi que la culture, qu'on puisse accompagner ces familles-là. Dans ce sens que vous fournissez les intrants, mais aussi les outils, et accompagner techniquement ces familles-là qui ont la volonté de vous délivrer là-dessus, pour en fait de nourrir leurs familles, mais aussi la population de leur contrée.
Oui.
Je vais montrer un projet dans ce sens-là, si ce n'est pas moi, on va me dire, en quelque sorte, pour accompagner les familles. Des familles, donc vous allez sur place, vous accompagnez les familles, et vous qui travaillez pour leur compte, mais vous les accompagnez.
Oui, Maître Gaston, vous avez fait l'état des lieux, vous avez évoqué l'insuffisance de l'information par rapport à la nutrition, il y a le fait qu'ils ne respectent pas l'allaitement exclusif, c'est déjà un problème, et vous insistez aussi sur le fait que les gens ne sont pas assez informés, il y a la monotonie, il n'y a pas de variation, il y a l'insuffisance de production, que ce soit en termes des légumes, des fruits, des viandes, des poissons, il y a tout cela qui se pose à ces états des lieux sur terrain. Alors concrètement, en un mot, comment faire face à toutes ces situations un peu plus rapidement?
Bon, faire face, comme je l'avais dit, c'est une question d'abord d'occuper. Comme j'ai dit, d'occuper, même par force, cette population qui chôme. Donc, celui qui n'a rien à faire doit aller au champ. Donc, la population doit produire en abondance.
Mm-hmm.
Comme j'ai vu un projet là, mécanisé qu'on nous a montré, moi je pense que ça ne va pas produire des effets. Il faut que les familles, qu'on puisse travailler avec les familles, la production au niveau des familles, pour que ces familles-là se prennent en charge, pour que ces familles-là puissent nourrir la population. Donc, c'est dans ce sens-là, à mon avis, qu'on doit fournir l'alimentation en abondance dans le cadre de l'agriculture familiale. Si
y a et l'élevage, monsieur, et la famille, ça, c'est important. Merci.
Mais, c'est d'abord commencer par l'accompagner les familles, apprendre ces familles-là à équilibrer et à varier les aliments. C'est une bonne chose. Vous allez
merci
voir,
beaucoup, maître Gaston, merci beaucoup. Il faut encourager l'agriculture familiale, l'élevage familial, mais il faut aussi accompagner les familles, à leur apprendre à équilibrer le repas. Ça peut résoudre le problème. Martin Dalla, vous êtes à Kalemie, dans la province du Katanga. Bonjour, Martin.
Bonjour, monsieur le journaliste. Mes salutations à tous les auditeurs qui sont en train de me suivre en ce moment et à l'invité aussi. Je vais axer mon intervention à trois niveaux, pratiquement. Je vais d'abord commencer en disant qu'il y a un président américain qui avait dit il n'y a pas de droit de l'homme qui doit pouvoir manger à sa faim. Donc, lorsque les gens ne mangent pas à leur faim, il faut tout simplement commencer à se dire que dans ce pays-là, il n'y a pas le respect du droit de l'homme. Donc, c'est pouvoir s'affamer, n'a point d'oreille. Maintenant, je vais continuer en disant ceci. La malnutrition, c'est un corollaire direct de la pauvreté. Dans ce pays, la plupart des gens ont été clochardisés depuis une certaine période, surtout après la guerre. Et depuis, on n'a jamais eu de mesures pour essayer quand même de redresser ces familles qui ont été mises qui ont été clochardisées par la guerre. Alors, si on veut aujourd'hui chercher des solutions à ces marasmes là de la malnutrition, il faut d'abord commencer par voir l'État qui doit prendre ses responsabilités. Responsabilités dans quel sens? En capitalisant, et ça c'est ce que nous avons, parce que nous avons 90% de terres arables dans ce monde, dans ce pays, nous sommes les deuxièmes pays après le Brésil, il faut multiplier les projets agricoles. Comme aujourd'hui nous avons le parc agricole de Mukangalonzo, il fallait pas qu'on se limite à celui-là, il fallait qu'on fasse plusieurs projets de ce type, on pourrait très facilement sortir de cette crise. Et la deuxième chose, lorsque on est en train de donner aux gens, aux travailleurs de ce pays, des maigres salaires, des salaires qui ne leur permettent même pas de régler les deux bouts de mois. Pensez-vous qu'ils seront en mesure de varier les aliments, comme on est en train de les dire sur les plateaux? Parce que varier les aliments, il faut suffisamment avoir de moyens. Mais avec les maigres salaires, avec les salaires maudits auxquels on soumet les peuples congolais, moi je crois que ça ne sera, les Congolais ne seront pas en mesure de varier les aliments. Et qu'est-ce que je vais encore dire, il faut que le gouvernement seulement prenne ses responsabilités en main en essayant quand même d'améliorer les conditions de vie de la population. Parce que si vous regardez dans ce pays, il y a des gens qui vivent très bien, il y a des gens qui vivent aussi très mal. Et si on essaie de faire une comparaison, c'est la nuit et le jour. Regardez la manière dont les acteurs politiques vivent dans ce pays. L'heure est venue. Et regardez aussi la manière dont les gens qui ne sont pas dans la sphère politique vivent. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un pays à la justice, surtout sur le point de la distributivité des ressources nationales. Donc vous avez ceux-là qui sont en train de travailler, mais qui ne reçoivent absolument rien et qui ne seront pas en mesure de subvenir aux besoins familiaux auxquels ils font face quotidiennement. Et la troisième chose que je vais dire, c'est aux parents. Je vais demander un peu aux parents d'avoir un planning familial. Parce que plus on a d'enfants, plus on a des difficultés à subvenir à leurs besoins alimentaires. Alors, ce n'est pas, ça ne sert à rien d'avoir une panoplie d'enfants pendant qu'on sait qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour essayer quand même de prendre en charge tous ces enfants-là.
Merci beaucoup,
en ces termes-là que je voudrais aussi parachever mon intervention en ce jour. Je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Martin Dalla. Vous êtes à Calémie, il y a la responsabilité de l'État, il y a la pauvreté. Si on pouvait avoir une redistribution équitable de ressources, ça peut permettre à chaque personne de pouvoir accéder à la nourriture. Il faut multiplier les projets agricoles. Voilà autant de pistes et des solutions, mais à cela, il y a aussi un conseil particulier hein, pour les parents, les capacités des parents à pouvoir avoir un nombre qui d'enfants qui puissent leur permettre de les prendre en charge. Merci beaucoup, Jean de Martin. On va écouter Jean des Dieux qui est à Kikuit dans la province de Bandundu. Bonjour, Jean des Dieux.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité.
Et vous avez suivi Maître Gaston, Martin, Edgar de Kananga. Au-delà de tout ce qu'ils ont dit, pour vous, la solution, c'est quoi pour faire face à la malnutrition?
Merci beaucoup. Je sais que mon compatriote, Martin, vient de le dire. Il a juste parlé ce que je devais dire concernant la pauvreté. Mais moi, j'ajouterais si j'ai des préoccupations que je vais aussi dire. Concernant la malnutrition, nous sommes ici à Bandundu, dans une zone purement agricole. Nous produisons beaucoup de produits qui font contribution à l'amélioration et à la construction de la santé des enfants ou des adultes. Mais ce qu'on remarque, c'est quoi? Nous avons aussi un problème des infrastructures routières. Voyez les histoires, les produits agricoles qui peuvent rejoindre Kikuit, qui sont à Feshi, à Matimanimba, qui sont et là au pont là de Kaemba, n'arrivent pas à nous atteindre sur sa ville parce que les routes ne sont pas en bon état. C'est pourquoi nous appelons aussi à l'État. Si aujourd'hui nous plairons de la malnutrition, oui, c'est bien. Parce qu'il y a aussi des centres de malnutrition où les sœurs religieuses sont en train d'encadrer certains enfants pour leur nourrir de soja, de chenilles, et ce qui pour qu'ils puissent établir leur état de santé qui est vraiment médiocre. Maintenant, nous ici, ce que moi je vais proposer, qu'on voit aussi les infrastructures routières qui permettent aussi qu'on puisse acheminer et de vivre ici dans la ville. Deuxième préoccupation, je dirais aussi, ce que mon frère Martin vient de dire, de la pauvreté et des manques vraiment d'augmentation des salaires des fonctionnaires. Un fonctionnaire qui touche 50 000, il a 3 enfants, il doit faire le pré-scolaire, il doit nourrir les enfants. Il doit aussi nourrir les enfants. Mais vous voyez, avec les 50 000, comment il va mettre pour la provision à la maison pour que les enfants puissent bien se nourrir. C'est pourquoi les enfants s'arrêtent qu'au bourse, ils mangent le bout national et surtout, ils perdent avec. Il n'a pas suffisamment d'énergie. Les 3 coupes d'aliments est recommandé pour quelqu'un. Lui n'a pas accès à cela parce que les moyens.
Jean des Dieux, vous avez évoqué la responsabilité de l'État dans l'amélioration des infrastructures routières qui puissent permettre à ce que les produits agricoles qui sont dans des différents territoires soient évacués vers les villes, les centres de consommation. Vous avez évoqué aussi les centres de nutrition comme solution, mais l'amélioration des conditions de vie de Congolais, c'est plus important aussi. Gérard Tshibanda, gardez la ligne, vous êtes en Bujuma et on va vous accorder la parole après la réaction de notre invité. Beaucoup de messages sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Patrick Etitolo, qui nous a écrit depuis Ouvira, dit ceci. Il n'y a pas une semaine que je venais d'effectuer une étude sur cette problématique. Les 3 causes contre lesquelles on doit lutter, c'est l'ignorance généralisée qui règne dans la population, il y a la pauvreté, l'État a abdiqué dans le secteur de la nutrition. Faustin Chikwanine, en effet, c'est avec amertume que nous déplorons la malnutrition au pays alors que notre sol est fermement riche pour la culture et à mon avis, c'est la présence, il y a des ONG qui discutent de vivre tout ça pourra. Lui, il estime que le fait qu'on puisse distribuer des vivres par des ONG, ça fait que beaucoup de gens croisent les bras aujourd'hui et ne cultivent pas, espérant que demain, on va venir leur donner de la nourriture par les ONG. Nicolas Mabogo dit ceci, l'affaire de la malnutrition, c'est pour tout le monde. Nous devons chercher les mécanismes pour combattre cela. Et le gouvernement, à son tour, il doit s'engager dans l'agriculture pour améliorer son secteur. Voilà, Moutoki Gislain, qui est à Lubero, c'est regrettable d'écouter des résultats dans un pays riche avec autant de potentialités naturelles énormes. Cela montre à suffisance que la vie sociale des Congolais n'est pas une grande préoccupation aujourd'hui pour ceux qui accèdent au pouvoir. Regardez les salaires des députés, des sénateurs, comparez cela au salaire des enseignants. Comment voulez-vous qu'on puisse combattre la malnutrition dans ces conditions? Sergio Moutala, qui est en Mbujimayi. La lutte contre la malnutrition est l'affaire de tous citoyens congolais. Dans un premier temps, les dirigeants congolais doivent prendre conscience que l'éradication de la malnutrition devait être passer par l'agriculture, avoir des cultures modernes, des plantations, des projets agricoles qui touchent toutes les familles. Voilà autant de réactions sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Comment faire face à cette situation? Comment lutter contre la malnutrition dans votre milieu? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Vivre à Vera, la santé pour tous avec Vieux Goliath, Maman Putoto, Finke et Sparrow. Vivre à Vera, pour découvrir les questions de santé de la reproduction, la promotion de la femme, les violences domestiques et d'autres thèmes tout en se divertissant. Vivre à Vera, le feuilleton du Population Media Center sur Radio Capi, le mardi soir et les jeudis soirs à 21h, le dimanche à 11h40 et 19h40.
Parole aux auditeurs.
Madame Viviane Malimba, vous avez suivi nos auditeurs. Chacun a une solution quand même pour faire face à la malnutrition. Chacun au moins a une solution. Mais est-ce que de toutes ces solutions des auditeurs, l'agriculture, les salaires, l'éducation de la population, tout cela, est-ce qu'il y en a qui rencontrent
le plan que vous, vous avez au niveau des Pronanut pour faire face à cette situation.
Oui, je dirais qu'il y a droit dans toutes leurs réactions, toutes leurs réponses. En tout cas, ça correspond avec notre stratégie de lutte contre la malnutrition pour les pays. C'est que je pouvais peut-être, avant que je puisse être direct, un peu revenir un peu pour que la population puisse comprendre un peu. Pour la lutte contre la nutrition, donc il y a des choses que nous appelons un programme d'aide multisectoriel. La nutrition, il y a des interventions de nutrition qui sont spécifiques et des interventions de lutte contre la malnutrition qui sont sensibles. Donc les interventions spécifiques et les interventions sensibles à la nutrition. Il y a des interventions qui sont spécifiques. Par exemple, comment lutter contre la malnutrition, il y a la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Donc c'est une nouvelle stratégie qui est même internationale, que nous avons aussi adoptée, que nous appelons l'ANGE. En sigle, l'ANGE, la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Dans la promotion de l'alimentation et du jeune enfant, nous devons faire un effort pour que nous puissions vraiment vulgariser cela, même au niveau de la base. C'est quoi le problème? C'est une stratégie qui englobe, premièrement, des zéros. Je peux dire, donc, dès la conception de la grossesse de l'enfant, jusqu'à 24 mois, dans les 1000 premiers jours de l'enfant, on doit faire un effort pour que qu'on puisse bien nourrir la femme enceinte. Dès la naissance de l'enfant, il y a un nourrisson, qu'on puisse promouvoir l'allaitement maternel exclusif. Ça, c'est une bonne stratégie qui n'exige même pas l'agriculture.
Maître Gaston l'a même proposé.
Très bien. Donc, la mère doit être disponible pour qu'elle puisse vraiment allaiter son enfant. Donc, à temps voulu, l'allaitement exclusif exige que la mère doit donner seulement le lait maternel sans autre chose. Si elle travaille, si elle a autre chose, elle peut partir au champ, mais elle doit exprimer son lait exclusif jusqu'à 6 mois et pourquoi même continuer jusqu'à 24 mois. Ça, c'est dans la stratégie LANGE pour lutter contre la malnutrition chronique. C'est ce que les intervenants venaient de dire. Et après les 6 mois, parce que la science dit, de 0 à 6 mois, les laits maternels seuls couvrent à 100% les besoins nutritionnels et les besoins énergétiques du nourrisson. Et à partir des 6 mois, c'est là où intervient maintenant les difficultés. C'est là où il y a maintenant plus les problèmes de la malnutrition. Donc, ça intervient plus à partir des 6 mois. Les mères donnent, introduisent plus une alimentation qui est précoce ou qui est vraiment tardive. Alors, à ce moment-là, ils ne savent pas, les femmes sont, dans la plupart, sous-informées sur la notion de l'équilibre alimentaire, des repas. Or, actuellement, nous sommes en train de promouvoir un régime à 4 étoiles. Un régime à 4 étoiles, c'est-à-dire à partir des 6 mois, jusqu'à 12 mois d'abord, les laits maternels couvrent 50% seulement des besoins nutritionnels et énergétiques. Les 50 autres, à partir des 6 mois, seront couverts par un autre aliment en dehors des laits maternels. Et des 12 à 59 mois, à 24 mois, il y a maintenant 33% des besoins nutritionnels et énergétique que l'élève maternel couvre. Donc vous voyez qu'à partir des 6 mois, c'est une période où intervient plus la malnutrition. C'est dû à l'ignorance. Les femmes ne savent pas quelles sont la variété alimentaire, la fréquence c'est comment. Ça c'est les caractéristiques d'abord d'une bonne alimentation de complément à partir des 6 mois. Donc il y a les 6 caractéristiques. Premièrement, il y a la fréquence. À partir des 6 mois, quelles seront les fréquences des repas à offrir à l'enfant. Il y a la variété. Donc la diversité à lui alimentaire. Donc, ils doivent varier les repas à donner. Et il y a aussi la texture. La texture, c'est-à-dire la consistance de la bouillie. La bouillie ne peut pas être liquide. La bouillie doit être épaisse. C'est-à-dire l'enfant, même les bébés, peut le prendre aussi, même peut manger, même en utilisant même ses doigts. Donc, ça ne peut pas être liquide comme étant les laits que la mère lui donnait. Donc, il y a aussi ce que nous appelons une alimentation active. Quand la mère est en train de donner les repas, donc après les 6 mois, on s'est ici dans l'alimentation de complément.
Oui.
Est-ce que la mère participe? Est-ce que la mère active son enfant? Est-ce que cet alimenté repas-là, ces repas-là, répond aux besoins de l'enfant? Ou qui assiste l'enfant quand l'enfant mange? Tout ça, c'est avant les 24 mois, après la naissance. Que les mères, les parents, je vois aussi les papas, nous négligeons souvent nous tous. Et aussi, il y a l'hygiène. Est-ce que les filles sont sensibles? Est-ce que la notion de l'hygiène est vraiment respectée quand on présente un repas à l'enfant? Donc, je disais, les interventions qui sont spécifiques, il y a l'ange, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, il y a l'allaitement maternel optimal, avec les trois stratégies, l'allaitement immédiat dans l'air qui suit l'accouchement, ça c'est dès l'accouchement, on doit donner le nourrisson à sa mère, il y a la troisième stratégie, la deuxième stratégie dans l'allaitement maternel optimal, il y a l'allaitement exclusif, donc j'ai traité 6 mois, je viens de le dire, et il y a l'allaitement continu. Et après les 6 mois, j'insiste, il faut qu'on puisse introduire l'alimentation des compléments qui répond au cadre spécifique que je viens de dire. La fréquence, la variété, la quantité, la consistance même de la bouillie, et aussi la notion de l'hygiène aussi, ça doit intervenir.
Oui.
Ok. Maintenant, en bref, pour montrer aussi quelles sont les interventions sensible à la nutrition, c'est ce que les amis venaient de le dire. Il y a la promotion de l'agriculture, il y a l'élevage partenaire qu'on doit promouvoir, et ils ont parlé aussi de l'eau, hygiène, assainissement, parce qu'il y a la maladie, on a dit, donc, parmi les causes de la malnutrition, il y a aussi les maladies
qui peuvent
aussi contribuer aussi à causer la malnutrition aussi chez quelqu'un. Donc, ce sont des activités qui sont sensibles à la nutrition. Maintenant, vous voyez que pour lutter contre la malnutrition, donc, il y a plusieurs secteurs qui interviennent. Donc, il y a la nutrition en tant que spécifique, un programme spécialisé, et il y a aussi d'autres programmes, d'autres ministères, entre autres l'agriculture, c'est que, on venait de le dire,
qui doivent aussi faire un bloc de l'environnement, des infrastructures, voilà, autant de...
Okay.
Mais est-ce que quand vous élaborez la stratégie, est-ce que tous ils sont aussi associés à l'élaboration aujourd'hui des stratégies dans... Est-ce que les autres secteurs sont associés?
Oui, actuellement, pas actuellement, je peux le dire, mais depuis qu'on a commencé, et aussi, nous sommes dans un mouvement, là, que nous appelons un mouvement SAN, comment faire monter la nutrition en grande échelle. Donc, la nutrition, actuellement, ne sera pas vraiment celle au ministère de la Santé. Donc, nous sommes en train aussi d'appuyer aussi les autres, d'intégrer aussi tous les programmes, aussi tous les secteurs, tous les ministères, de pouvoir aussi intervenir et trouver les stratégies que nous devons faire pour pouvoir promouvoir la nutrition et comment c'est vraiment la malnutrition qui est en train de prévenir dans notre pays.
Voilà, mais il y a Jean des Dieux de Kikuite qui a évoqué les centres d'émission de nutrition tenus par les Serres catholiques. Est-ce que dans la stratégie, le programme prévoit aussi des centres comme ça, doter les pays des centres où les enfants qui sont déjà dans un état et aussi où les parents ne peuvent plus les récupérer ou les nourrir, qui peuvent être liés à une maladie. Y a-t-il ce centre aussi comme ça?
Oui, et ça c'est juste la malnutrition aiguë. C'est comment lutter contre la malnutrition aiguë. Ce que nous sommes en train de parler, oui, en quelque sorte, nous luttons contre la malnutrition chronique, mais en quelque sorte, en passant, nous sommes en train aussi de résoudre le problème de la malnutrition aiguë.
Voilà.
Pour la malnutrition aiguë, la prévalence des études prouve actuellement pour notre pays, il y a une prévalence de 11% pour la malnutrition aiguë. En quelque sorte, près de 1 million d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition aiguë dans notre pays. Quelle est la stratégie de notre pays? Nous avons actuellement l'intégration dans les systèmes de soins de santé primaire. Donc, dans les ministères, dans toutes les zones de santé, les 515 zones de santé, normalement, on doit commencer la mise en œuvre ou la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë de tous ces enfants-là qui souffrent de la malnutrition. Il y a des mesures, des critères pour les admettre au niveau des structures. Donc, pas seulement dans les structures des serres, dans les structures conventionnées, tout ça, mais dans toutes les structures de l'État. Donc, on doit prendre en charge, on doit d'abord renforcer les capacités de prestataires, des infirmiers, des médecins, dans la nouvelle stratégie de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë. Donc, il y a des intrants, traitements nutritionnels, il y a les traitements médicaux que nous donnons pour pouvoir lutter contre la malnutrition. Donc, ce qui nous manque, ce qui est insuffisant, si on peut le dire, c'est le traitement nutritionnel. Donc, nous avons les traitements nutritionnels qui est vraiment spécialisé pour ça. Mais, ce qui est plus important, c'est de quoi? C'est de prévenir cette malnutrition aiguë. En faisant quoi? En faisant la promotion de l'allaitement maternel, en faisant une bonne alimentation des compléments, et aussi, j'ai dit aussi, il y a des interventions qui sont sensibles, en donnant de l'eau potable aux enfants, une bonne disponibilité d'eau potable, l'hygiène aussi que nous devons promouvoir, l'agriculture et l'élevage. Si vraiment tous ces paquets-là sont disponibles, je pense, nous serons en mesure de réduire les taux de la malnutrition chronique qui est soit 43 à 48%, peut-être pourquoi pas 10%. Et aussi la malnutrition aiguë qui est vraiment fatale, on peut le dire, on peut les réduire aussi à 5%.
Alors, en vous écoutant, les stratégies, je me rends compte que c'est une grande préoccupation là, contre la malnutrition.
Oui.
Et je me dis... au niveau du Pronalut, on ne devait pas se reposer.
Vraiment, on ne devait pas se reposer. Aussi, on ne se repose pas. On travaille de temps en temps, nous planifions. Le Pronalut est là pour concevoir. nous faisons des conceptions, nous donnons des normes et des directives de plan d'action opérationnel par rapport à la nutrition, aux interventions de la nutrition. C'est ce que nous faisons. Et aussi, nous envoyons cela au niveau intermédiaire, donc au niveau de province, et avec nos normes édictées par le programme national de nutrition. Quelles sont les nouvelles stratégies pour lutter contre la malnutrition chronique et la malnutrition aiguë via des interventions. Nous faisons aussi actuellement la supplémentation en vitamine A.
Oui.
C'est dans la prévention de lutte contre la malnutrition. Et aussi la consommation aussi des sels iodés. C'est dans la lutte contre la malnutrition toujours. Et aussi la lutte contre les contos. Donc il y a les maniocs dans les coins où là-bas, il y a un intervenant qui venait de parler des fèches qui sont là-bas. Donc il y a des maniocs qui est vraiment, je peux dire, riche en cyanure, qui cause actuellement des maladies qu'on appelle les contos. Les gens sont devenus de paralyser tout ça. Donc c'est un problème nutritionnel aussi. Vraiment, on a un grand problème dans la nutrition dans notre pays. En tout cas, ce qui serait important, nous sommes en train de travailler. Nous sommes là les techniciens de l'État, donc on a renforcé notre capacité. Nous sommes en train de travailler, de planifier, de concevoir. Mais ce qui nous manque, je peux dire, ce qui est insuffisant, ce sont les paquets qu'on met
dans notre disposition
pour pouvoir promouvoir, sensibiliser, informer que la population puisse se retrouver.
Merci, on va revenir à vous, Madame Viviane Malemba. C'est vraiment important ce que vous avez dit. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas moyen qu'on se repose au niveau des coronavirus vu la diversité et l'immensité du problème. Et Gérard Chibanda, vous êtes à Monédite ou au Kassai Oriental. Jérôme Akanaya et Madame Julie Ngombe ici à Kinshasa, 0-81-890-6315 pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Gérard, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, je salue également Madame Viviane qui est votre invitée et qui s'occupe de ce programme-là de nutrition des enfants.
Oui Gérard, à Monévite par exemple, vous avez suivi les élèves, est-ce qu'il y a des initiatives qui vont dans le sens d'encourager la population, de sensibiliser par rapport à l'amélioration de la nutrition?
Oui, à mon avis, tout ce que je vois, je ne vois pas un organisme. Il peut être, ça peut exister, mais peut-être j'ignore. Mais ce que je sais, que les mamans qui suivent, quand elles sont enceintes, qui suivent les histoires de PV à des différents centres de naissance, là où ils mettent au monde, on enseigne ces choses-là. Alors, c'est plein de théories et il n'y a pas de pratique. Et si j'ai bien suivi la maman qui parle, c'est bien beau tout ce qu'elle raconte. Il dit pour combattre, il faut l'allaitement maternel, il faut encourager ça, il faut l'eau potable, il faut les repas équilibrés, tout ça, c'est bien beau. Mais tout cela nécessite les moyens. Il y a un auditeur qui a parlé, que les Congolais mal payés, nous n'avons presque pas un salaire. Toutes ces choses-là nécessitent l'argent. Elle-même aussi, quand elle a essayé de donner les causes, elle a des termes de nutritionniste, de nutritionniste, elle a parlé des causes, là où elle disait que la femme doit être instruite, là, et la femme... l'enfant doit être avoir les soins de santé qu'il faut, et aussi il a parlé des causes fondamentales, il a parlé des budgets. Alors les budgets là, nous voyons l'argent. Alors même tout ce qu'ils ont comme programme, c'est bien beau, mais est-ce qu'ils ont les moyens? Elle a reconnu qu'il n'y a pas assez de moyens. Alors, parlant de l'eau potable par exemple, ça n'existe presque pas dans des milieux où nous restons, ça n'existe pas. Qu'est-ce que la maman peut faire pour son enfant? Autant, étant donné qu'elle-même n'a pas d'eau potable, elle-même est mal nourrie, elle va allaiter l'enfant, bien sûr. D'ailleurs, ici, dans les milieux où nous sommes, les mamans ne donnent pas des biberons, les mamans ne travaillent pas aux enfants. Ça, ce sont des gens, par exemple, là, Kinshasa, Lubumbashi, des grandes villes, là où il y a des mamans qui laissent des enfants et qui donnent des biberons, même si la maman ne travaille pas, elle a un peu de moyens pour faire ça. Ici, on ne donne pas, il y a même des mamans qui ne connaissent même pas les biberons. Les mamans allaitent telles qu'elles souhaitent là, elles allaitent les enfants même jusqu'à 2 ans. Mais malheureusement, malgré ça, il y a des choses qui manquent, qui nécessitent l'argent, parce que la maman elle-même, elle est mal nourrie, l'enfant n'a pas de la nourriture, le repas équilibré, il n'y en a pas. Elle a parlé soit un repas de construction, de protection, et ainsi des choses comme ça. Mais tout ça, ça nécessite des moyens. Le Congolais n'est pas payé, comment faire face à ça? Et aussi, on a dit, il faut dire, ce sont des éléments réels pour combattre la nutrition. La production aujourd'hui, il y a des gens qui produisent juste pour les besoins familiaux. C'est fini. J'ai fait mon petit champ, c'est juste pour ma famille. Or, il faut encourager, il faut encadrer pour que nous puissions produire, pour même exporter. Ça te fait un plus pour le pays. Mais si on produit juste pour la famille, et il y a un élément, encourager cela pour la famille, c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais dans des milieux où nous sommes peut-être ailleurs aussi, il y a la haine, et l'État doit combattre, doit faire des mises en garde à ces gens-là. Vous dites, je vais faire les champs pour combattre contre la nutrition. Vous arrivez là-bas, on vous fait des fétiches,
on vous casse les jambes, on vous devenez myope. Ce sont des choses.
Alors, c'est quand vous avez dit dans les milieux ruraux, dans nos villages, hein, quand quelqu'un se rend dans la forêt, il voudrait cultiver, les chefs qui me disent, non mais écoute monsieur, ça c'est notre forêt, alors il faut que l'État peut organiser le sous-sol pour permettre à celui qui a la volonté d'investir dans l'agriculture de pouvoir le faire et sensibiliser la population. Mais Gérard, ce que vous avez dit c'est important, vous avez le maître mot pour vous, c'est le moyen, les ressources. Vous avez dit les ressources, pas seulement pour les parents, les salaires qu'il faut améliorer, mais doter aussi hein, les pronamites des moyens nécessaires, des ressources nécessaires pour arriver à atteindre ces objectifs. Vous avez plaidé pour cela. Au-delà de tout, il faut sensibiliser. En milieu rural, d'ailleurs, beaucoup de nos mamans respectent l'allaitement exclusif hein, parce qu'ils ne connaissent pas la notion d'acheter du lait pour donner à un enfant d'un mois, tout ça. Mais au-delà de tout, il faut accompagner avec d'autres moyens, des ressources nécessaires pour lui permettre de vivre comme il faut. Nous avons aussi Jérôme qui est avec nous. Jérôme, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour les amis auditeurs des Radio Capi.
On vous écoute Jérôme.
Oui, c'est Jérôme Michel Milengue, j'appelle à partir de Karanga. Je suis en train de saluer d'abord les gens des Pronamites hein, qui sont ici au Kasaï occidental. Ils étaient à Benaleka, donc à Benaleka dans les territoires des Demba, pour lutter contre la malnutrition. Ils ne l'ont pas encore fait ici à Kananga, mais ils étaient à Benaleka. D'ailleurs, on les salue et on les encourage qu'ils en fassent plus. Et je suis en train de contredire aussi nos amis qui disent que la malnutrition est liée au salaire des parents, par exemple. Non, mais c'est pire. Si nous voyons bien, est-ce qu'un parent peut manquer 300 francs pour s'acheter les légumes pour ses enfants? Que nos amis ne mettent pas seulement en tête que la malnutrition, c'est seulement quand l'enfant n'est pas bien nourri, par exemple, l'enfant mange des légumes. Au contraire, Pierrot, la consommation de poulet, de Thompson et consorts, c'est ça d'ailleurs qui contribue à cette malnutrition-là. Parce que ce sont des histoires hybridées, ce sont des histoires hybrides, si je peux le dire. Alors, je conseille aux amis de manger plus de légumes, entre autres les amarantes, fougères, les choux, feuilles de manioc et consorts. Ça contribue aussi à la santé, Pierrot. Mmh. Et aussi, je voudrais rappeler une chose, Pierrot, si vous me le permettez. Il y a eu un temps, nos parents, quand on les payait à chaque fin du mois, par exemple à la SNCC, quand on payait les parents, on donnait aussi à nos parents les sacs de riz, les sacs de manioc, les sacs d'haricots, les sacs de soja pour nourrir leur foyer. Mais à présent, ça n'y est plus. Ça n'y est plus. Nos parents sont seulement payés. On ne voit pas des sacs de riz là et haricots. En tout cas, j'interpelle aussi la conscience des gouvernements congolais. Mmh.
Voilà. Oui, c'est important, Jérôme, ce que vous avez dit. Vous avez encouragé les Pronamites hein, pour le travail qui est fait. Vous souhaitez que ce qui a été fait à Benaleka, dans les territoires de Demba, soit aussi fait à Kananga. Mais vous contredisez les amis qui pensent que les gens ne mangent pas bien parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Vous estimez qu'avec le peu qu'on peut avoir, mais si on s'organise, on est assez informé, on peut aussi avoir des repas prioritaires. La question des légumes, par exemple, vous savez comment nous avons grandi dans nos familles. Quand on prépare les légumes, l'enfant regarde des bouts de tout de suite parce qu'il n'y a pas les Thompson ici à Kinshasa, on le voit dans des familles. Alors, il arrive que les gens dépensent beaucoup d'argent pour acheter ce qui n'est pas constructif pour l'organisme. Mais cela aussi passe par la sensibilisation, l'éducation de famille. Mais vous souhaitez que les entreprises puissent aussi organiser des cantines, comme vous voyez dans le temps, des suppléments sur les salaires, la nourriture qui était aussi donnée. Mais vu les moyens, c'est que la SNCC aujourd'hui, je ne crois pas que la SNCC soit capable de pouvoir encore donner des sacs de riz de soja à ses travailleurs, vu la situation que l'entreprise traverse actuellement. Merci beaucoup, Jérôme. Madame Eugénie, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bien-aimé.
On a suivi les hommes. Oui, les hommes ont beaucoup parlé. Mais alors, notre invité nous a dit que c'est la femme qui est la maîtresse, c'est elle qui est au centre de tout, c'est elle qui va au marché, c'est elle qui nourrit la famille. Alors, quelle pourrait être aujourd'hui la place de la femme dans la lutte contre la malnutrition, Madame Eugénie Ngombe?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je commence par vous saluer. Vous dire merci d'une très bonne émission pour aider surtout les mamans, premières responsables pour la santé des enfants de la maison.
Oui.
Oui, il y a une parole de Dieu qui dit un peuple sans révélation, il est sans fin.
Oui.
On a tout dit de tout ce que j'avais dans ma tête. je voulais seulement ajouter deux ou trois choses.
Oui.
Qu'est-ce que j'ajoute? Je voulais demander au gouvernement, notre gouvernement congolais, de pouvoir organiser des activités en sorte des équipes dans des quartiers, juste dans la mission d'enseigner les mamans concernant la nutrition.
Mm-hmm.
C'est très capital ce que vous avez souligné. Personnellement, je fais les études infirmières. Mes collègues avaient le surnom qu'ils m'appelaient avant toute chose la santé. De cette santé, il faut savoir qu'est-ce qu'on a mangé. Vous allez trouver une maman qui a fait un très gros foufou avec un petit rien là. Tel qu'Akananga, comme on l'a dit, j'ai trouvé des petits makayabu qu'on appelle Mwanakende. Donc c'est vraiment petit,
oui.
Il n'y a rien là-dedans. Et des fois on en donne comme ça, il n'y a pas de légumes. Et une vie comme cela, vous voyez comment la vie des enfants sont en péril. Ça c'est mon premier point.
Mm-hmm.
Comment ma demande auprès du gouvernement. Je dis d'abord merci beaucoup à notre gouvernement parce qu'il a fait voir vraiment l'amour de notre pays concernant les programmes de 5 chantiers. Maintenant, je suis sûr que le gouvernement va vraiment s'occuper de la santé.
Oui.
Mais je donne une idée dans tout ce qu'ils vont préparer comme programme concernant la vie sociale, mm-hmm. la santé du peuple. D'abord, organiser des équipes dans des quartiers, juste pour enseigner les mamans sur la nutrition des enfants.
Mm-hmm.
Savoir quoi donner aux enfants, c'est très, très capital. J'ai vu un temps donné à Lubumbashi. C'était une période là où la crise avait frappé le pays, avec notre papa, le défunt Mobutu. Les sœurs catholiques avaient organisé quelque chose. À partir des paroisses catholiques, on avait commencé à préparer la bouillie de soja. Le bien-aimé, ça avait beaucoup aidé la population. Et les gens s'amenaient avec les assiettes pour prendre cette bouillie donnée aux enfants.
Mm-hmm.
Ça avait vraiment contribué.
Oui.
C'est ce que le gouvernement peut encore contribuer aujourd'hui. Ça ne demande pas cher, ça ne coûte pas cher. Le pays est vraiment riche pour pouvoir organiser un peu de telles histoires.
Oui.
Je demande encore quoi? À l'église. Bien-aimé, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tourmenté. Moi, je suis servante de Dieu, je suis visionnaire messagère, je suis ici en mission dans la ville de Kinshasa, dans mon pays.
Oui.
L'église, bien-aimée, aujourd'hui, est à 60%, je peux dire, pour donner la solution dans la vie du peuple. Parce que tout le monde est dans l'église.
Oui.
L'église est la première place de pouvoir aider le peuple, la population,
mm-hmm.
sur la nourriture. Ça ne coûte pas cher.
Oui.
Je vous dis la vérité. Là où il y a la volonté de faire, c'est
on
Dieu qui fait passer sa main.
Voilà.
Je demande à tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de nous suivre, les épouses des pasteurs qui sont là dans des salons qui sont en train de me suivre, de demander à leur mari, visionnaire des églises, des pasteurs responsables, d'organiser la vie sociale dans l'église. Ce n'est pas l'argent du pasteur. Moi, je suis pasteur. Nous faisons les demandes. Quand seulement tu vas prier pour cela, vous allez faire les demandes des volontés. Les volontés, amener les sacs de riz, amener les sacs de soja, amener le haricot. Et l'église comme un programme de chaque jour. Dans l'église, il y a tous les niveaux possibles de vie.
Mm-hmm.
Il y a de ceux-là qui ont des moyens, il y a de ceux-là qui n'ont pas de moyens. Vous voyez, après les cultes, après avoir beaucoup dansé, la joie, la louange, une maman qui rentre dans sa maison avec des enfants peut-être orphelins, bien aimé, cette maman n'a rien à donner aux enfants. C'est un péché.
Mmh. Alors, vous êtes une
intervention de Dieu.
Voilà.
Je le dis.
Vous estimez, madame, que l'église. Voilà. Madame, vous estimez aujourd'hui que l'église, au-delà de tout ce qu'on peut faire sur les plans sociaux, il y a des moyens. On peut organiser des cantines qui permettent à ceux qui sont membres de l'église, qui n'ont pas de moyens, peuvent se nourrir, peuvent être assistés. Cela peut aussi contribuer à lutter contre la malnutrition. Merci beaucoup, madame Eugénie Ngombe, de nous avoir appelé de Kinshasa. Les témoignages, c'est très important. Le gouvernement, les activités de sensibilisation dans les quartiers, l'éducation de la population sur la nutrition, mais il y a aussi des centres qu'il faudrait créer aujourd'hui pour assister ceux qui n'ont pas de moyens et le rôle et ce que l'Église doit faire dans la lutte contre la malnutrition. C'est vraiment important ce que vous avez proposé. Nous avons Estras qui nous appelle de Bouya en province orientale et Jean-Marc qui est à Kisangani dans la même province. Avant d'écouter Estras et Jean-Marc, je voudrais lire ce message de nos auditeurs Innocent Arma Kondoli à partir ici à Kinshasa. Si 43% d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique, c'est un problème de non-respect de régime alimentaire par les parents. Teddy Burunda Samira, qui est à Goma, les buts pour lui, il demande que fait les Pronanut exactement. On pourra poser la dernière question. Notre invité pourra nous dire concrètement ce que les Pronanut disent. C'est la question posée par Teddy. Angelo Kambale, comment, pourquoi les pays comme la RDC peut atteindre un tel pourcentage alors que nous sommes un pays debout, comme l'a dit le chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Rugenda Banga Mulikuza, qui nous a écrit depuis Maniema, et il dit ceci, la guerre, surtout la guerre, a été à la base de la malnutrition dans les provinces de l'Est, où les gens ne sont plus allés au travail, ni n'ont pas eu le temps de faire les champs. Rapidement, Estras, vous êtes à Bounia, en province orientale. Vous avez suivi les uns et les autres, Estras, qu'est-ce qui doit être fait rapidement?
Oui, à part... Bonjour, Radio Okapi.
Bonjour.
Oui, alors, ce qui doit être fait, il y a dans des villages, par exemple, où on produit quand même une grande quantité de nourriture, mais les paysans se mettent à vendre toute la production qu'on a obtenue dans les champs pour en fait consommer les petites choses de mauvaise qualité.
Mmh.
Alors, il faut aussi une bonne sensibilisation de la part de l'État. Il y a aussi... Ils peuvent produire, mais ils ne savent pas comment préparer, comment mélanger les aliments pour bien manger, quand même.
Voilà, ça veut dire que le travail doit être fait en amont. Les gens qui produisent, mais qui préfèrent vendre. Il y a aussi, on a évoqué dernièrement sur les antennes des radios, j'ai pu vous rappeler qu'il y a d'autres coins, par exemple dans le Kassa oriental ou Kassa occidental, on produit du maïs, mais on préfère l'utiliser pour la fabrication de l'alcool. Et alors, tout de suite, la famille n'a plus rien. Et là, les gens produisent, mais ils vendent. Mais ceux qui achètent aussi, ceux qui veulent manger, mais bon, ils mangent une de mauvaises combinaisons de repas. Merci beaucoup, Estras. Jean-Marc, gardez la ligne, nous allons vous accorder la parole. Et, nous avons Jean-Luc qui nous a écrit des Lubumbashi. Elle dit ceci. D'ailleurs, la plupart des gens, la population congolaise est moins informée sur les notions de la nutrition. Les gens ne savent même pas ce qui doit être fait. Pour d'abord lutter, il faut d'abord sensibiliser la population. Williamson Kaseba qui nous a écrit des Kamina au Katanga. Et lui aussi évoque la lutte contre la pauvreté parmi les stratégies de la lutte contre la malnutrition. Nous allons tout de suite revenir dans ce studio avec notre invité. Nous parlons de la lutte contre la malnutrition à cause de ces 43% d'enfants de moins de 5 ans qui sont touchés par la malnutrition chronique en RDC. Qu'est-ce qui doit être fait dans votre milieu? Vos pistes de solutions sont vraiment intéressantes dans cette émission. Jean-Marc, vous êtes à Kisangani, en province orientale. Vous êtes avec nous. Bonjour, Jean-Marc.
Bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait?
Ok, d'accord. Je suis content à l'émission qui vient d'être divulguée.
Mm-hmm.
D'abord, ce qui est essentiel, il serait mieux qu'on puisse répertorier d'abord les causes de malnutrition. Ce serait certain, je suivais avec beaucoup d'intérêt notre prédécesseur. Ils ont relaté beaucoup de causes qui sont liées, qui sont à la base de la malnutrition. Mais moi, plus ce qui me frappe, je citerai un peu trois ou quatre causes. Premièrement, la pauvreté. La pauvreté. Deuxièmement, le non-renforcement des capacités de la population et en matière de la nutrition.
Mmh.
Et troisièmement, l'analphabétisme et pour finir maintenant la notion de planification familiale. Mmh. Je voudrais m'appeler plus sur l'analphabétisme. Si je suis en train de viser ça, de mettre plus l'accent sur l'analphabétisme, c'est parce que la plupart de la population elle n'est pas informée. Or, nous avons des journaux, des profs Ragnar et Ranger qui circulent dans des cités partout, par-ci, par-là. Or, si la population a plus de connaissances, avait plus de connaissances, savoir lire et écrire, on allait détecter là où il se situe que nous devons manger au moins 80% d'aliments alcalins et 20% d'aliments acidiques. Alors, entre autres, il dit encore il faut assurer les triades de bonne alimentation, entre autres aliments de protection, de croissance et énergétiques. Or, si la population a plus de connaissances sur, soit a au moins la base sur la notion de, la, disons, avec plus de connaissances, va plus s'assortir dans ce problème.
Il peut facilement continuer. Oui, vous avez dit, Jean-Marc, ce que vous dites, c'est important. Au-delà de tout, il faut que les gens soient instruits. Les gens ignorent beaucoup de choses sur la nutrition. Beaucoup de gens ne comprennent même pas d'abord quand on leur dit les aliments énergétiques, aliments de construction, de protection, de croissance, tout ce que vous avez utilisé comme terme. Des fois, les gens ne parviennent pas à comprendre ce que ça veut dire. Il faut instruire, il faut sensibiliser la population, il faut l'éduquer. Et c'est un travail qui doit être fait. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle du gouvernement dans tout cela. Merci beaucoup, Jean-Marc de Kisangani. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez la chance d'intervenir pour boucler au nom de tous les auditeurs. Vous les avez tous suivis, chacun, avec les causes, les pistes et les solutions. Mais pour vous, docteur Richard, alors, concrètement, au-delà de tout ce qui a été dit par les gens, comment on peut agencer ces idées pour permettre à ce qu'on puisse faire face à cette question de malnutrition? On vous écoute.
Merci, Pierrot. Félicitations à tout le monde qui a parlé. Et voici ma modeste contribution. D'abord, je félicite le Pronanut parce que ce programme a fait des progrès. Et par la bouche des invités, ce programme vient de dire que seul, le Pronanut ne peut pas résoudre de problème. Je dis ça parce que je me suis fait inviter comme entrepreneur agricole de la biotransformation des produits agroalimentaires. Donc, pour résoudre ce problème, il faut qu'on travaille avec les producteurs agricoles, ceux qui ont la transformation des produits agroalimentaires et les ménagères. Parce que c'est à ce niveau qu'il se pose le problème. Deuxième chose, il faut que l'on combatte le snobisme. Lorsqu'on parle de la bouillie de l'enfant, je me demande si on pensait à quelle bouillie. Nous faisons la promotion de la production de la bouillie avec les céréales trouvées localement. Et d'autres céréales pourries, telles que le sorgho, les mil, etc. Les gens s'approchent à des farines parfumées venant de l'extérieur. Troisième chose, il faut que l'on puisse aussi faire la promotion de l'élevage du petit bétail. Il faut qu'on les cite. Les combis, les chauves-souris. J'ai suivi un médecin santé publique dire ça c'est la pauvreté. Je dis que ce n'est pas ça. Ça c'est la richesse que Dieu nous a donnée. Même s'il y a Ebola là-bas, quelque chose là où il n'y a pas d'Ebola et on peut donner la protéine à la population parce que la mise bas de ces petits bétails donne beaucoup de protéines sur la table. Quatrièmement, il faut aussi que l'on puisse faire la promotion de ce que moi j'appelle les innovations. Regardez notre petit déjeuner. C'est toujours le pain avec le thé plus le sucre. Ce qui conduit sans relâche au diabète et à d'autres maladies cardiovasculaires. Cinquièmement, la fin, je crois, qu'on ait ce qu'on appelle de la créativité. Pourquoi devant nos richesses en denrées alimentaires, par exemple les protéines d'origine animale, on ne peut pas, qu'on ne vole pas cette idée, on ne peut pas faire, par exemple, la semaine de Chimbriki. Et pendant cette semaine, on étale l'ABC de la préparation des chimbriques. La semaine des chenilles, la semaine de mbembe ou escargot. Ce sont des richesses qui sont en train d'être écrasées parce que l'alimentation est restée tribalo-ethnique. Lorsque quelqu'un mange une histoire qui n'est pas de son ethnie, on le regarde avec des yeux bizarres. On dit, oh, mais pourquoi est-ce qu'il est Moulou, il mange l'histoire des Bambala? Pourquoi est-ce qu'il est Mundinga, il mange l'histoire des Babembe du Katanga? Ça aussi, c'est un frein. Il faut qu'on y pense. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Richard. C'est important, les considérations, l'alimentation qui reste ethnico et tribal. Augustin Tendi Longué, je me demande comment les enfants qui sont dans un pays debout, qui a une économie qui marche, peuvent-ils se retrouver avec un tel pourcentage de malnutrition chronique? Cela veut dire qu'il y a une contradiction entre ce que les politiciens, eux, pensent du pays et la réalité que nous vivons dans nos familles. Kambale, Cyprien, Asifioué, Voilà, nous allons éradiquer la malnutrition quand nous-mêmes nous serons conscients de cela au niveau de nos familles, au niveau du pouvoir public. Bénédiction Migo de Bukavu, c'est monté pour un pays de 80 millions de terres arables pour qu'on puisse parler de la malnutrition chronique auprès de nos enfants. Le travail doit être fait par les pouvoirs publics, mais aussi par les familles et par tout le monde. Voilà autant de pistes de solutions. Madame Viviane Malemba, vous avez suivi les uns les autres. Placez un mot par rapport aux commentaires des auditeurs. Le Richard parle des habitudes alimentaires qui est aussi un frein à l'amélioration de la nutrition. Et après, vous parlerez aux auditeurs ce que vous faites concrètement au niveau du Pronanus dans ces secteurs de malnutrition.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, je félicite tout le monde. Je le félicite. Et surtout que je peux aussi ajouter sur ce que le docteur Richard venait de dire. Et ce qui est intéressant vraiment dans notre pays, que nous devons vraiment beaucoup produire. Et si nous produisons, il est important que nous puissions aussi les consommer. Donc, quand les problèmes se trouvent, il y a un intervenant qui venait de dire que non, on peut produire, mais malheureusement, nous ne consommons pas ce que nous produisons et nous les mettons à la vente. Normalement, ce n'est pas ça, ce n'est pas recommandé. Donc, nous sommes en train de promouvoir la consommation des aliments locaux. Dès que nous produisons, nous devons vraiment les consommer. Et ce n'est pas important, même que ce soit au niveau des structures de santé, que ce soit au niveau de la communauté, nous sommes en train de recommander aux mères de pouvoir nourrir leurs enfants à partir des aliments à base importée, quoi. Mais c'est mieux qu'on puisse vraiment recommander les aliments à base locaux. Donc, ce que nous produisons ici, nous avons tout. Et surtout les aliments à base locaux, nous avons plus. Il y a les céréales. Nous avons les céréales parce qu'une mère qui peut manquer les céréales, qui peut manquer les maïs, elle peut être à mesure de pouvoir demander, même solliciter à sa voisine de pouvoir le donner pour nourrir son enfant. Donc, nous avons besoin qu'on puisse promouvoir la consommation des aliments locaux, c'est ce qui est important. Et que ça ne sert à rien, comme le docteur Richard venait de dire, que l'alimentation est restée tribalo-ethnique. Mais non. Si, par exemple, un Mongala qui manque, qui consomme les mbembe, par exemple, l'escargot, et pourquoi ma fille ne meurt pas, et que quelqu'un demande qu'il consomme les chenilles, s'il ne meurt pas, je peux aussi en consommer. Donc, un régime à 4 étoiles. Un régime à 4 étoiles, c'est-à-dire quoi? Premièrement, dans un repas qu'on prépare pour l'enfant ou qu'on prépare pour la famille, ça doit constituer de 4 régimes à 4 étoiles. De 4 régimes à 4 étoiles, dans quel sens? Premièrement, il y a des aliments à base alimentaire, donc les aliments énergétiques. Deuxième étoile, ça doit être les aliments riches en protéines. Et troisième étoile, ça doit être les aliments riches en protéines, mais d'origine végétale. Et quatrième étoile, dans un repas, ça doit être les aliments ou fruits, on peut appeler ainsi, fruits ou légumes. Donc, à 4 étoiles. Dans un repas d'un régime à 4 étoiles, ça doit apporter dans l'organisme d'un enfant ou dans l'organisme d'un adulte. Donc, les trois groupes d'aliments. Donc, le groupe énergétique, le groupe de construction et le groupe de protection. Donc, c'est très important. Et ce qui est le mieux, c'est la sensibilisation. On a parlé de l'ignorance. Donc, la population ou la communauté ne sont pas tellement informées. Dans l'analphabétisation, on peut le dire. Mais pourquoi pas traduire les messages, l'information dans
les langues locales? Voilà, les gens ont leur langue, ils peuvent écouter facilement.
Nous formons les relais communautaires au niveau de la communauté. Quand même, quand bien même que ce n'est pas nous, mais nous accompagnons les prestataires, les infirmiers, nous les formons, nous renforçons leurs capacités. Maintenant, et à leur tour, formons aussi les relais communautaires dans leur dialecte.
Et ça, c'est dans ce que les journalistes font d'une manière de la
vie.
Et encore, qu'est-ce que vous faites encore au niveau des journalistes? Il y a un auditeur qui a posé la question parce qu'on va terminer.
Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement les niveau national, parce qu'il y a plus une chaîne. Au niveau national, nous sommes limités quand nous faisons des concessions. On conçoit les documents, les normes, ce que j'ai dit, et nous planifions. Et directement, ce n'est pas nous qui mettons ça en œuvre, c'est les niveaux intermédiaires. Les niveaux intermédiaires sont là pour faire les suivis, bien sûr, sous notre accompagnement. Et dans les normes, là, que nous élaborons. Et arriver au niveau de la base, donc ce sont les niveaux périphériques que nous appelons, donc au niveau des centres de santé, mais là, c'est à MLA de mettre en œuvre c'est que le niveau national élabore ou conçoit. Donc c'est ça. Le suivi doit être dans chaque zone de santé et dans chaque ménage même. Donc on doit faire le suivi de ce qu'on fait. On sensibilise les gens. Est-ce qu'on fait le suivi à domicile pour faire le suivi, pour voir? On doit faire le suivi à domicile. Quelqu'un qui a compris peut-être comment on prépare une recette équilibrée. Équilibrée, c'est-à-dire c'est les recettes locales. Ça ne peut pas être une recette qui est emportée. Locale, c'est-à-dire un peu de chenille ou bien un peu d'haricot qu'on mélange avec une farine, peut-être la farine de maïs, on peut mettre une petite cuillerée d'huile. On peut ajouter aussi deux ou trois cuillerées peut-être de légumes pour que ce repas là puisse être équilibré, pour que ce repas là puisse constituer vraiment un repas à 4 étoiles. Est-ce que nous faisons des sensibilisations, bien sûr? Est-ce que nous faisons des suivis? Le problème, c'est que se trouve au niveau des suivis. Parce que nous sommes sûrs que la sensibilisation, les messages passent. Comment lutter contre la malnutrition? Quelles sont les interventions? Il y a l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la promotion de l'allaitement maternel, l'alimentation des compléments, la production et la consommation des aliments locaux. Malheureusement, ils sont informés, mais c'est le suivi maintenant.
C'est le suivi qui fait défaut. Alors, en 10 secondes, parce qu'on doit terminer, y a-t-il un cadre de concertation permanent entre vous et les autres secteurs? Parce que nous avons dit, la lutte aujourd'hui, elle est multisectorielle. Avez-vous une structure qui réunit tous les autres services pour discuter, élaborer des stratégies un peu plus rapidement?
Ok, oui, c'est ce que nous faisons en train de faire actuellement, et surtout c'est l'économiste qui est en train d'assumer vraiment les rôles de secrétariat exécutif ou permanent, si on peut le dire. Donc c'est l'économiste avec les mouvements sales. Donc comment faire monter la nutrition en grande échelle? Comme j'ai dit, c'est vraiment intersectoriel, c'est vraiment l'économiste qui est à la base, et nous regroupons tous les secteurs, tous les ministères.
Okay, merci beaucoup Madame Viviane Malemba, vous êtes nutritionniste et chef des services de réhabilitation nutritionnelle au Pôle Nanut, hein, le programme national de nutrition, c'est un programme du ministère de la Santé. Merci à Jean-Claude Chiala qui a mis en nom de cette émission réalisée par Julie Feza, Pierrot et la Mégie, vous la présentez sous la supervision de Ben Kabamba. Vous allez retrouver des paroles aux auditeurs sur www.radiocapi.net, mais aussi ce soir en rediffusion à 20h03 heure de Kinshasa. Merci, au revoir.